Les questions de Léa Salamé.
Monsieur le ministre, vous avez donné votre feu vert à Christian Estrosi à Nice qui veut expérimenter la présence permanente d'un policier non armé dans 3 écoles de la ville. L'expérimentation démarre ce mois-ci. Si ça marche, est-ce que vous allez l'étendre à la rentrée prochaine à toute la France? Est-ce qu'il y aura un policier dans toutes les écoles de France? C'est possible, c'est envisageable?
Non, l'idée n'est pas celle-là. L'idée était de faire une expérimentation, de voir si cela avait un impact sur toute une série d'ailleurs de facteurs qui sont regardés de près à Nice. Comme vous le savez, en plus, Nice est une ville qui a été particulièrement traumatisée sur les sujets de sécurité. Et donc, l'idée qu'un policier municipal non armé puisse contribuer à développer l'esprit de sécurité dans des écoles a paru intéressant à expérimenter.
Donc, si ça marche, pourquoi vous l'étendez?
Si ça marche, il faudrait que ça s'étende à Nice. Ensuite, ça dépend de chaque municipalité. Mais c'est pas quelque chose que je pousse particulièrement. C'est juste simplement quelque chose qui...
Ça vous effraie pas un policier dans une école?
Non, je pense que la relation école-police est un sujet très important, dont j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs dans les prochains temps, pas seulement sous cette forme-là, si vous voulez. On parle sans arrêt, par exemple, de la mauvaise relation qu'il y a entre les policiers et les jeunes. Je pense que si dès l'enfance, vous avez été habitué à voir sous un angle coopératif, sous un angle positif, ce qu'est un gardien de la paix, n'oublions pas ce que signifie ce mot, ou ce qu'est un policier municipal qui est là pour vous faire traverser la rue, qui est là pour vous aider, qui est pas là pour autre chose. Donc, tout cet état d'esprit de confiance entre la société et ses forces publiques me paraît au contraire quelque chose qui se travaille à l'école. Et par exemple, vous voyez, quand on veut lutter contre la drogue, c'est important que des policiers viennent à l'école pour en parler, etc. Donc, il faut dédramatiser la relation sans pour autant, évidemment, avoir l'émergence de forces de police
partout
dans les écoles.
J'avais envie d'entendre le ministre de l'Éducation sur mai 68. On fête les 50 ans cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de mai 68? Que c'était une libération salutaire ou que c'est le début de la fin? Que c'est la grande déconstruction de l'école?
Alors, c'est la deuxième fois qu'on m'interroge là-dessus sur France Inter et j'observe que c'est un sujet important.
Ça n'est pas pour vous?
C'est important, oui, c'est un sujet intellectuel.
Il me semble qu'il n'y a pas
d'abord.
Que sur France Inter que vous avez été interrogé.
Oui, bien sûr. Non,
dans des presses de droite également.
On parle souvent de mai 68. Oui. C'est vrai que mai 68, c'est important. Et c'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi sous l'angle intellectuel d'ailleurs, parce que je pense qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose qui, sur le plan intellectuel, a été décisif dans, non pas mai 68 en tant que tel, mais ce que mai 68 a cristallisé à un moment donné. Et il y a notamment de grands auteurs qui ont eu beaucoup d'influence par la suite. J'ai souvent beaucoup de révérence pour ces auteurs et un peu moins pour ce qu'on a fait de leur œuvre et d'une certaine façon les interprétations dont nous vivons aujourd'hui.
Quels auteurs?
On peut parler de Michel Foucault, évidemment, on peut parler de Derrida, on peut parler de non seulement des auteurs que Luc Ferry a rassemblés sous l'appellation Pensée 68, mais même de façon plus éparse, des auteurs qui sont d'ailleurs très différents les uns des autres, qu'on a souvent regroupés sous l'appellation Mai 68, mais je crois que derrière Mai 68, il y a aussi beaucoup de malentendus, parce que il y a des pensées extrêmement diverses, ça va de l'hyper-individualisme à l'hyper-collectivisme, par exemple, donc on met derrière Mai 68 beaucoup de choses, c'est pourquoi je suis toujours un peu mal à l'aise pour répondre à cela, parce que je le vois à la fois comme un moment d'histoire de France, après tout, un peu comme 1848.
Il faut commémorer.
Je ne suis pas non plus un fanatique de la commémoration, et il y a évidemment un paradoxe à commémorer quelque chose qui s'établissait contre les commémorations. Mais ce n'est pas quelque chose qui me gêne, ni quelque chose que j'appelle particulièrement mes voeux.
Très rapidement, Antoine Gallimard a dit hier avoir suspendu sa décision de publier les pamphlets antisémites de Céline, mais il ne renonce pas à le faire plus tard, dit-il. Est-ce qu'il faut les publier ou non?
Écoutez, si j'étais éditeur, je ne les publierais pas. Mais maintenant, est-ce que notre état de droit doit aller jusqu'à empêcher la liberté d'éditer? Il y a évidemment un certain seuil à partir duquel il faut le faire. C'est pas à moi d'en juger, c'est pas dans ma compétence. Maintenant, si j'étais éditeur, je ne le ferais pas.
Allez, la parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Zachary.
Bonjour.
Lycéen, je crois, Zachary.
C'est ça, donc je suis lycéen, merci. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
On entend souvent reprocher à des élèves d'être trop scolaires, donc assez paradoxalement en fait de n'avoir des compétences qui ne sont liées qu'à l'école et de ne mobiliser que celles-là à l'école. Et donc pour votre grand oral auquel je suis pas opposé parce que je pense que c'est une composante quand même de la vie professionnelle et sociale qui doit être maîtrisée, mais on demande quand même de mobiliser des attitudes, des intonations qui sont très codifiées et qui sont pas discriminantes à l'écrit et qui là le sont. Donc comment est-ce que vous pourriez combler cet écart de dotation en capital culturel en fait qui vient de la famille, du milieu dont on est issu? Donc comment est-ce que l'école peut remédier à cela?
Merci Zachary pour cette question. Jean-Michel Blanquer.
Bon, c'est une très bonne question. C'est précisément pour
Très bien formulé aussi.
Et très bien formulé aussi. Et c'est précisément pour cette raison qu'on a créé cet oral du baccalauréat. C'est pour travailler en amont du baccalauréat sur l'oral. Parce que l'oral, c'est important dans la vie. On est tous en situation, comme Zachary vient de le faire, à un moment donné, de s'exprimer, d'avoir à défendre quelque chose dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et donc, il faut absolument compenser les inégalités qui peuvent exister très jeunes sur cette question. Donc, c'est l'ensemble de l'école française, dès l'école maternelle, qui doit être mobilisé sur un français écrit et oral de très grande qualité. Je n'oppose évidemment pas l'oral et l'écrit. Et d'ailleurs, l'expression « être trop scolaire », ce n'est pas une expression que je reprends à mon compte, parce que j'aimerais bien que tout le monde soit très scolaire en France, dès lors qu'on reprend l'étymologie de ce mot et ce qu'elle a de libérateur, justement. Mais en tout cas, l'oral, préparé à l'oral, c'est fondamental. Donc je pense, pour répondre rapidement, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, que ça va avoir une influence sur l'ensemble de notre système dès l'école primaire, que ça va passer par le renouveau d'un certain nombre de pratiques orales dans le cadre de chacun des cours, l'encouragement de certaines pratiques culturelles aussi, comme le théâtre notamment, et qui vont donc à partir de la rentrée prochaine être encouragées. Vous savez qu'on a encouragé les chorales, ça a parfois été commenté de diverses façons. Eh bien, la chorale, c'est une façon de sortir de soi-même.
Oui, puis c'est bien de chanter ensemble, c'est
chanter
agréable.
Ensemble, c'est très agréable.
Fabien, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Je voulais demander au ministre de l'Éducation s'il n'est pas temps, vu qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de rythme scolaire, mais on n'a pas du tout abordé la question des vacances scolaires, notamment des grandes vacances d'été, qui sont quand même très longues, parfois trop longues d'ailleurs pour les parents qui ont du mal à faire garder leurs enfants pendant 8 semaines minimum, voire plus quand les enfants sont au chômage technique, disons, du fait des examens, et que les établissements sont fermés par anticipation. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de réformer le rythme annuel des élèves, et non pas seulement le rythme hebdomadaire, ce qui allégera d'ailleurs aussi le rythme journalier, puisque en étalant sur plus de jours les cours, la même quantité de cours, on pourrait du coup alléger chaque jour de travail des élèves et par là même des professeurs. Mmh.
Merci Fabien pour cette question. Jean-Michel Blanquer.
C'est une très bonne question. Je vais être très prudent dans ma manière de vous répondre parce que chaque fois que j'ai répondu à cette question dans le passé, simplement pour évoquer des pistes, cela donne lieu à des interprétations qui ne sont pas indispensables. Mais vous avez tout à fait raison. Quand on pense au rythme de l'élève, il faut penser à la journée, à la semaine et à l'année. Et les vacances françaises posent évidemment un certain nombre de questions. C'est donc un dossier qui est ouvert, hein, je l'ai déjà dit, j'en parle avec un certain nombre d'interlocuteurs. Ça ne va pas changer demain matin, hein, ça changera peut-être à moyen terme, après de longues discussions que j'aurai avec de nombreux interlocuteurs. D'ores et déjà, mon but, c'est que les périodes de vacances, de même que les périodes périscolaires, comme le mercredi en particulier, deviennent de plus en plus riches de propositions culturelles et naturelles et sportives pour les élèves. Mmh. Et vous savez, j'ai aussi la jeunesse et la vie associative dans mes compétences. Et par exemple, nous avons besoin d'avoir un renouveau des colonies de vacances. Les colonies de vacances ont de moins en moins d'enfants qui y vont, c'est quelque chose qui doit rebondir dans les années qui viennent et on va y travailler.
Une dernière question au standard. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toute l'équipe de France Inter et bravo pour vos émissions et la qualité de toutes vos émissions. Voilà, je voulais interroger Monsieur le Ministre concernant l'enseignement des mathématiques. Dans la réforme du lycée, donc, les mathématiques ne figurent pas dans le tronc commun, c'est-à-dire qu'à partir de la classe de première, elles relèveront donc du choix des élèves. Les élèves pourront donc complètement abandonner cet enseignement. Or, dans le rapport Mathiot, les mathématiques figuraient dans le tronc commun. C'était en tout cas la proposition qui était faite. Et cela me semble également contradictoire avec le rapport Villani qui a été remis deux jours avant la réforme du lycée et qui préconisait justement un renforcement de cet enseignement, en particulier pour les élèves qui se destinent à être professeurs dans le premier degré.
Bien donc, compris, voilà. Bien reçu. Contradiction, point d'interrogation, Jean-Michel Blanquer.
Oui, d'abord, les mathématiques vont être très importantes dans le futur lycée. Il y a peut-être là un malentendu qui vous fait penser cela. D'abord, toutes les propositions Villani, il y en a 21, vont être retenues, dont celle que vous avez dite. Et s'agissant des mathématiques, elles sont en réalité dans les trois blocs qui composent le futur baccalauréat et le futur lycée. C'est dans le socle commun parce que ce qu'on appelle humanité scientifique et numérique va avoir une base mathématique réelle et approfondie. Deuxièmement, vous avez les mathématiques de spécialité. Ça représente 4 heures en première, 6 heures en terminale. Et nous avons créé deux matières mathématiques supplémentaires dans le troisième bloc, ce qu'on appelle les options, avec les mathématiques expertes. Ça, c'est une conséquence du rapport Villani. C'est 3 heures. Autrement dit, si vous êtes un très matheux, vous ferez 6 heures plus 3 heures, ça fait 9 heures, contre 8 heures aujourd'hui. Et puis, on a créé mathématiques complémentaires, c'est-à-dire pour ceux qui ne prendraient pas mathématiques en matière de spécialité, qui pourront les prendre. Typiquement, quelqu'un qui va faire des études de médecine ensuite, qui prendrait SVT et physique-chimie, et qui ensuite prendrait mathématiques complémentaires 3 heures. Donc, il y a plusieurs configurations qui renforcent les mathématiques. Et évidemment, notre stratégie, c'est de renforcer les mathématiques, mais en même temps, ne pas le faire de manière indifférenciée, exactement de la même façon pour tout le monde, mais d'arriver à ce que chacun ait des mathématiques correspondant à son cursus.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, merci.
Merci à vous.
Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce matin au micro de France Inter.